7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 décembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un homme, une femme, deuxième tour du congrès LR dès ce matin. Éric Ciotti en tête face à Valérie Pécresse, nous verrons pourquoi elle est favorite. Dans le journal, Anaïs, après les autres titres.
8 cas du variant Omicron confirmés en France. Dans les aéroports parisiens, les mailles du filet se resserrent pour tracer les passagers de retour des pays à risque. Un tube d'une diva punk de l'ère communiste, les adieux détonnants d'Angela Merkel aux forces armées allemandes. Et puis un public debout pendant plusieurs minutes, concert sensation hier au Transmusical de Rennes.
Et après ce premier tour de la primaire LR, invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50. Le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux sur le programme économique des deux finalistes. Et dans la foulée à 8h20, analyse dans le grand entretien du paysage politique à droite avec la journaliste au Monde, Françoise Fressoz, et le politologue Jérôme Jaffray. Le standard est ouvert, vous attend 01 45 24 7000.
France Inter.
Et c'est reparti pour un tour de vote. Ouverture dans une heure des opérations de scrutin au Congrès Les Républicains pour départager les finalistes. Deux options pour les 139 000 adhérents. À droite, toutes, avec Éric Ciotti arrivé en tête et sa rhétorique de guerre de civilisation, retour du droit du sang, fin de l'impôt sur le revenu pour une flat tax de 15%. Autre option, Valérie Pécresse, suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, construction de 6 EPR, durcissement du droit à la nationalité. Arrivée seconde, Anne Souhaitemont, la présidente de la région Île-de-France, est pourtant favorite.
D'abord parce que derrière les messages d'unité, une sorte de tout sauf Ciotti s'est dessinée hier et très vite. Dès l'annonce des résultats, Philippe Juvin tweet son soutien à Valérie Pécresse, suivi par Xavier Bertrand et enfin Michel Barnier. Les deux premiers s'affichent même à ses côtés lors de sa prise de parole. Bref, pour la majorité des élus et cadres du parti, Valérie Pécresse est celle qui serait la meilleure candidate. Elle peut rassembler une profession de foi avec les visages de Pécresse, Bertrand, Barnier et Juvin, a d'ailleurs été envoyée aux militants hier soir. « Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron », déclare la candidate. Ensuite, parce que Valérie Pécresse a un programme jugé sérieux et crédible, les textes sont prêts, martèle-t-on dans son camp, où on avance aussi une autre carte, l'atout femme. Mais les militants seront-ils d'accord avec les cadres? C'est la grande question. D'ailleurs, aucun n'a donné de consigne de vote, juste dit pour qui ils voteraient. Chacun sait bien chez LR que les militants n'aiment pas qu'on leur dicte la conduite à tenir. Ils l'ont prouvé en mettant Éric Ciotti en tête au premier tour, inimaginable il y a encore quelques semaines.
Inimaginable aussi pour son camp, la défaite cuisante de Xavier Bertrand, quatrième, celui qui était parti le premier, adversaire préféré d'Emmanuel Macron. Le président des Hauts-de-France voit sa carrière nationale s'arrêter brutalement. Chute de la PME Bertrand, le récit de Maxence Lambrecq.
Dès la chute de François Fillon, il vise 2022. Mais Laurent Wauquiez prend le parti, alors il s'en détache.
Nous sommes dans une dérive, je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. C'est pas simple, mais aujourd'hui je crois aussi que ça ne se joue plus dans les partis politiques.
Il structure tout de même le sien, sa boîte à idées, la manufacture. 2019, la claque des européennes fait tomber Laurent Wauquiez, puis François Baroin renonce, la route se dégage, il dégaine le premier.
Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser, je respecte leur choix, mais je souhaite les rassembler autour de mon projet.
Reste un obstacle, les régionales, le RN et 5 ministres contre lui, il est largement réélu.
Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français.
Un tour de France, seul, tout l'été, à peine une semaine de pause. Là, je suis à 16%, sans le soutien du parti, confie-t-il fin août. Ça montre que c'est possible. Xavier, une fusée à 4 étages, théorise son équipe, mais elle ne décolle pas. Valérie Pécresse et Michel Barnier lui barrent la route, alors il cède et se soumet au vote des militants.
Divisé, on est sûr de perdre.
Mais il hésite à reprendre sa carte, puis traverse 55 départements ponctués de face à face avec Emmanuel Macron dans l'Aisne, la Somme.
Lui et moi, je pense que nous aurons l'occasion de débattre. Le moment approche.
À 56 ans, plein d'aplomb, de certitude, de calcul, il voit son ambition nationale s'envoler. Laurent Wauquiez, lui, peut toujours se projeter.
Et vote jusqu'à demain, 14h. On connaîtra donc dans la foulée le ou la candidate, les Républicains à la présidentielle. Quel que soit le résultat, déjà la gauche réagit. Droite à la dérive qui n'a plus rien de républicaine pour la France insoumise. Au PS, on estime, je cite, que Ciotti en tête, c'est la conversion des Républicains aux thèses Zemmour-Le Pen. Le Parti communiste appelle à un électrochoc pour la gauche.
Il est 7h05. Le risque d'attraper le Covid-19 est 3 fois supérieur, Anaïs, avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta.
Étude sud-africaine qui vient de paraître, sans remettre en cause pour l'instant l'efficacité des vaccins. L'Afrique du Sud, où ce variant Omicron est désormais dominant, et il sera majoritaire en Europe d'ici les tout prochains mois. D'autant qu'on constate désormais des transmissions locales en Australie, identifiées chez un étudiant de Sydney n'ayant pas voyagé et sans lien avec des personnes venant de l'étranger. Idem aux États-Unis, où une transmission locale a été détectée. En France, 8 cas avérés dans 5 régions, la plupart chez des personnes de retour d'Afrique du Sud. Alors on essaie de tracer au plus près les voyageurs dans les aéroports, traquer les vacanciers de retour de l'île Maurice ou des pays d'Afrique australe, qui jusqu'ici, Philippe Lefebvre, pouvaient débarquer sur le territoire sans trop de difficultés.
Jusqu'à présent, pour rentrer en France, c'était relativement simple. Il suffisait d'avoir 2 billets d'avion, le premier entre le pays de départ et un pays de l'Union européenne n'ayant pas fermé ses frontières, et un second entre ce pays et la France. Ainsi, officiellement, vous n'arriviez plus d'un pays fermé, mais d'un pays de l'Union européenne, avec très peu de chances d'être contrôlé, puisque vous arriviez en zone Schengen. Désormais, ce ne sera plus possible. Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris, a annoncé la mise en place, avec la police de l'air et des frontières, d'un système de traçage des passagers en transit par les deux grands aéroports européens, les hubs, comme on dit, qui reçoivent de très nombreux passagers en correspondance venant d'Afrique australe. Il s'agit des aéroports de Francfort et d'Amsterdam. Le pays de départ réel des passagers en transit devrait donc être transmis aux autorités françaises. Et dès son arrivée en France, le voyageur devra se soumettre à un test PCR à l'aéroport, puis à un isolement de 7 jours si le test est négatif, et de 10 jours si le test est positif.
La Norvège, elle, serre la vis dans la région d'Oslo. Des dizaines de contaminés, pourtant tous vaccinés, 5 cas Omicron après un repas de Noël d'entreprise. La Martinique, elle, confrontée à la crise sanitaire et sociale, envisage des évacuations sanitaires dans les prochains jours vers la métropole. Le couvre-feu y est prolongé, comme en Guadeloupe, jusqu'au 7 décembre à cause des barrages. À Saint-Martin, un gendarme a été blessé. Des affrontements ont opposé un groupe de personnes à la gendarmerie qui tentait d'évacuer une carcasse de voiture sur une route. La crise sanitaire, on le sait, a empiré la situation de l'hôpital déjà à bout depuis des années. Les soignants de l'hôpital public manifestent demain, car malgré le Ségur, il manque des infirmiers. Il faudrait en embaucher 100 000 d'ici 3 ans, selon les collectifs interurgences et interhôpitaux. Conséquences personnelles et direction sont à cran. Le reportage dans les Yvelines de Marion Ferrer.
Après 5 heures d'attente, Marie et son fils quittent enfin les urgences.
Pour une radio et des doliprane.
Une attente au milieu des brancards et des soignants qui passent en coup de vent.
On attend sans fin, sur une chaise, on attend.
Et on ne vient pas vous voir ?
Non, les médecins, on ne les voit pas trop, c'est plutôt les infirmières, mais c'est très long.
Aux urgences de cet hôpital yvelinois, le manque de personnel est un problème quotidien.
Il y a 30 patients qui attendent tous les matins dans des brancards, des gens âgés. Il y a une souffrance et une insalubrité qui est quand même à nos portes, quoi.
Constat dressé avec colère par Marie-Laure. Cette neurologue nous a rejoint sur le parking de l'établissement. À ses côtés, Anne, infirmière en soins intensifs. Depuis plusieurs mois, elle voit ses collègues partir, lassés par le faible salaire, désabusés par le Ségur.
Ceux qui partent ne partent pas pour faire leur profession ailleurs, partent pour faire autre chose.
Mais c'est tous les mois,
à peu près.
La nuit, Anne se retrouve parfois seule avec une aide-soignante et 24 patients.
C'est une réalité que nous ne faisons pas notre travail correctement, que si je suis dans la première chambre, je ne suis pas non plus dans la dernière. Et si la personne sonne, si c'était vital, eh bien, on verra ce qu'on pourra faire.
Anne reconnaît qu'elle réfléchit elle aussi à changer de carrière, mais comme une dernière chance, elle viendra manifester demain à Paris.
À 16h cet après-midi à Bordeaux, la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins sur le professeur Didier Raoult, accusé d'entorse au code de déontologie en promouvant l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Un accident de chasse mortel hier après-midi en Bretagne. Un chasseur de 82 ans est mort, touché par un autre chasseur qui se trouvait de l'autre côté d'un étang. Les faits se sont déroulés sur une propriété privée dans le Finistère.
Il est 7h09, le début aujourd'hui, Anaïs, de la tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe.
Première étape, Dubaï aux Émirats Arabes Unis, et l'annonce d'un gros contrat d'armement, la vente de plusieurs dizaines de rafales, précision à 7h30 dans le journal. Mais le président français se rendra aussi au Qatar et en Arabie Saoudite, où il sera reçu par le prince héritier Mohamed Ben Salman, désigné par la CIA comme le commanditaire de l'assassinat sauvage du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Ce qui désole la présidente d'Amnesty International, la France ne devrait pas participer à la réhabilitation d'un prince tueur, dit Agnès Callamard dans le journal Le Monde. Pierre Aski, intervient à 8h15. Outre Rhin, c'est une autre tournée d'adieu de la chancelière Angela Merkel. Clôt mercredi ses 16 années passées à la tête de l'Allemagne et elle surprendra les Allemands jusqu'au dernier jour. Hier, émotion et tube détonnant lors du traditionnel rituel de l'hommage au flambeau à Berlin. Nathalie Versieux.
Avant de passer la main à Olaf Scholz, Angela Merkel a assisté à la traditionnelle parade militaire au flambeau, adieu de l'armée au chef du gouvernement. Comme ses prédécesseurs, elle avait la possibilité de choisir la bande-son de cette cérémonie à la fanfare de la Bundeswehr. Surprise pour les militaires, Angela Merkel leur a commandé un morceau hors répertoire, l'adaptation d'un tube de la rockeuse punk est-allemand Nina Hagen, en vogue auprès de la jeunesse de l'ex-RDA.
Cette chanson était un des moments forts de ma jeunesse qui, comme vous le savez, s'est déroulée en RDA. La chanson venait de la RDA et par coïncidence, le texte se déroule dans une région de RDA qui était aussi ma circonscription. Tout s'accorde donc aujourd'hui.
Les musiciens étaient en terrain plus familier avec le reste de la sélection de la chancelière, une ballade des années 60 et un cantique religieux. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Voilà, on quitte les cantiques mais on reste en musique. Première grosse soirée de concert hier soir au Transmusical de Rennes et cette sensation au Théâtre National de Bretagne. Le compositeur italien Andrea Laszlo De Simone. Grand moment de musique, Mathieu Culeron.
Un public debout pendant plusieurs minutes pour célébrer l'un des concerts qui restera dans l'histoire des trans. Andrea Laszlo De Simone, en deux concerts, aura convaincu le public comme les professionnels avec un orchestre de 12 musiciens au Théâtre National de Bretagne. Prestation inoubliable entre variété des années 70 et musique orchestrale italienne. Le trentenaire turinois arbore un grand sourire à la fin de son concert.
Vraiment heureux. La sensation de beaucoup d'affect, ça suffit pour moi.
Autodidacte et solitaire, Andrea Laszlo De Simone ne sait pas lire la musique, mais dit en faire depuis toujours. Parmi ses influences, le chanteur-acteur italien des années 50, Domenico Modugno.
J'aime beaucoup une chanson de Modugno qui s'appelle « Che cosa sono le nuvole » qu'il avait écrit pour un film de Pasolini. Pour moi, c'est la musique, c'est fondamental. Parce que moi, je ne veux pas dire des choses très précises. L'amour, c'est plus musical. Oui, c'est vrai. La musique, ça peut traduire une quelque chose qui rassemble la générosité.
Les Transmusicales de Rennes qui se terminent dimanche ont d'ores et déjà couronné Andrea Laszlo De Simone. Deux concerts qui viennent confirmer l'étonnant talent d'un musicien qui n'a jamais eu l'intention de se produire sur scène.
Et les Transmusicales de Rennes, c'est jusqu'à dimanche et ici à la Maison de la Radio et de la Musique. Événement aujourd'hui, le manuscrit autographe du Boléro de Ravel apporté par convoi exceptionnel sous escorte policière. La partition prêtée par la Bibliothèque Nationale de France sera présentée au public à 19h, suivi d'un concert, le Boléro évidemment, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Ça donne envie, merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom aujourd'hui consacré au scandale du chlordécone en Guadeloupe.